Quand on néglige sa jeunesse, c'est dans le fond qu'on tombe en dépression et qu'on est incapable de préparer son avenir.
Ça ne veut plus rien dire, Lucien. C'est des merdeux, des cons.
Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Je vois mon ange sous somnifère qui s'endort sur mon épaule. Non, non, c'est l'univers. Je vis en décembre sans Noël, sans bon moment. Je me lève en descente et la pluie tombe abondamment. Je rallume mes cendres pour profiter de mon amour.
Lundi 27 mars, c'était le coup d'envoi du festival SEEDS. En pleine semaine étudiante de l'écologie et de la solidarité, le projet s'installe avec un objectif clair. Eugénie Perrambaudin nous en dit plus.
Je suis responsable de la mission Transition écologique et sociétale pour l'Université de Toulouse. Alors, aujourd'hui, donc, on est sur le festival SEEDS. C'est un projet qui est porté effectivement par la mission Transition écologique et sociétale au sein de l'Université de Toulouse. C'est Margot Reyes qui en est la chargée de projet. Le but, c'est de sensibiliser et de former les étudiants et nos personnels, nos enseignants-chercheurs, aux enjeux de transition écologique et sociétale. Et aujourd'hui, ce festival, il permet un peu de mettre en lumière le projet et d'avoir un temps fort, donc avec différentes actions qui sont menées au cours de ces deux journées et sur différents formats. Donc aujourd'hui, hackathon, demain avec des ateliers, fresques du climat, fresques de la biodiversité, des ateliers sur l'éco-anxiété. Donc une programmation assez variée, des rencontres étudiantes. On a le concours aussi Éco-Campus qui permet de valoriser les projets portés et puis des temps un peu plus récréatifs, comme ce soir avec la diffusion de La Panthère des Neiges ou un concert demain soir. Alors, on se dit pas qu'on y a une bonne solution, on essaye de tester des choses, et c'est le but même de ce projet, c'est de tester, de proposer des formats différents pour justement identifier qu'est-ce qui pourrait le plus interpeller les étudiants. C'est vraiment un public que l'on teste. On pense, là, au regard des expériences qu'on a depuis une année à peu près, que justement, c'est le côté très varié des formats qui permet de toucher différents étudiants, parce que les étudiants qui vont être plutôt sensibles à aller à un concert et puis par la même occasion d'être sensibilisés à certains enjeux. D'autres qui sont peut-être un petit peu plus en amont, sensibles, et donc ils vont être à la recherche d'ateliers un petit peu plus poussés. Et donc c'est pour ça, on teste des choses. On pense qu'effectivement le format festival, c'est l'occasion de concentrer beaucoup de communication sur deux journées et donc du coup de maximiser un peu notre impact. Le côté sensibilisation, il est vraiment sur le projet SEEDS, et en dehors, on met en place des projets très opérationnels, des bilans gaz à effet de serre, on commence à travailler sur la question des plans de déplacement, et puis on a aussi un gros volet formation où on essaye de former à la fois les étudiants mais aussi nos personnels à différentes dimensions. Je pense effectivement aux ateliers que je vous ai cités, comme la fresque du climat, la fresque de la biodiversité, l'atelier d'automne, mais on forme aussi sur notre volet transition sociétale, et donc autour des enjeux par exemple d'égalité femmes-hommes ou de lutte contre les violences sexuelles et sexistes.
Donc c'est vraiment quelque chose qui, tout au long de l'année, il y a des actions, des comptes rendus, et les formations, c'est des gens, dire lambda, des gens qui sont volontaires, qui viennent et qui souhaitent être formés, qui viennent d'eux-mêmes.
Oui, tout à fait. Et on a toutes les catégories qui sont représentées de la communauté universitaire. Donc ça peut être des doctorantes, des enseignantes, des étudiants, des personnels aussi administratifs, techniques, qui viennent effectivement dans ces formations. Là, dernièrement, on a lancé toute une formation sur les violences sexuelles et sexistes, et on a vraiment des personnes en nombre qui viennent, donc 60, 100 personnes qui viennent à ces formations et qui viennent vraiment de tous les horizons et de tous les établissements de l'Université de Toulouse.
Quand ces personnes elles viennent, est-ce qu'elles vous disent les raisons de leur venue, tout ça? Souvent, ça, c'est quoi leur quelques mots? Est-ce que c'est une envie soudaine? Est-ce qu'ils réalisent au fur et à mesure que c'est vraiment des enjeux sociétaux très, très capitaux?
Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que je pense qu'ils en entendent de plus en plus parler dans les médias, hein, que ce soit ces enjeux un peu sociétaux ou écologiques, et que ils ont envie d'aller plus loin, d'être mieux informés, d'avoir une formation spécifique sur ces enjeux-là pour mieux comprendre et pouvoir agir aussi. Je pense qu'il y a une forte volonté, en tout cas c'est ce qu'on ressent dans les formations, c'est que derrière il y a une volonté de pouvoir agir concrètement. Oui, alors les formats, ils sont variés, hein. C'est vrai qu'on espère qu'ils soient le plus pédagogiques possible, qu'en général c'est quand même une première brique pour aller plus loin dans la formation, hein. On se prétend pas, on fait appel à des organismes de formation extérieurs ou alors c'est des ateliers vraiment très organisés. Et je pense qu'il y a effectivement de ça, de vouloir faire communauté, d'avoir une communauté de fresqueurs par exemple, de gens qui sont formés à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Donc il y a aussi ce côté effectivement faire communauté, pouvoir agir dans son établissement et se reposer sur un réseau d'acteurs professionnels.
Le festival, un moment convivial, plus fédérateur pour sensibiliser les jeunes sur les enjeux climatiques. Margot nous explique le principe de ce format.
C'est-à-dire que le projet SEEDS, donc ce sur quoi je travaille, il a une entrée qui peut être très institutionnelle, qui peut être très sur des formations, etc. Et du coup, le porteur de projet et l'équipe qui travaille sur tout ça avaient à cœur d'organiser un temps fort, qui soit à la fois festif, qui soit convivial, qui permette de ramener des personnes qui sont pas forcément sensibilisées et qui auraient même pas forcément l'idée de venir voir une conférence ou quelque chose comme ça, qui soient un peu happées par soit le lieu, qui là est un tiers-lieu, qui est très convivial, etc., soit par le concert qu'on fait à la fin, soit parce qu'ils ont un pote qui vient faire une fresque et que du coup il a envie de s'inscrire.
Pourquoi cibler les étudiants particulièrement avec cette démarche ?
On sait qu'au vu de l'urgence, les 20 prochaines années vont être primordiales dans le fait d'enclencher un changement. Et même là, il ne doit même pas être enclenché, il doit être tangible d'ici à 20 ans. Et donc forcément, on estime que les futures personnes actives, donc qui vont travailler bientôt, ont un poids sur les épaules qui est différent de celle des générations d'avant. Par contre, là où je reviens sur ta question, c'est que quand tu discutes avec des chercheurs, des enseignants-chercheurs ou des personnes qui sont engagées sur ces questions, en fait, il est primordial d'intégrer aussi les générations d'avant et les personnes qui ont un retour d'expérience, qui savent ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, parce que la cause écologique militante, elle existe depuis les années 70 et on en a toujours eu. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est beaucoup plus facile d'être écolo aujourd'hui que ça ne l'était il y a 50 ans. Et là, par contre, ce qu'il faut, c'est fédérer massivement. Et elle est là, la subtilité. C'est qu'avant, être écolo, c'était une idéologie, c'était un engagement, c'était quelque chose. Sauf que là, aujourd'hui, c'est devenu une nécessité. C'est-à-dire que s'engager pour cette cause, elle devient apartisane. Tu peux être de droite comme de gauche, il faut devenir sobre en énergie, il faut repenser ses modèles économiques, il faut repenser ses loisirs, il faut repenser plein de choses. Et pour nous, réussir à toucher les étudiants qui vont bientôt avoir des prêts, des achats, des enfants, et ben en fait, on arrive juste avant qui fassent tout ça pour que ces choix-là qui sont pesants dans l'impact carbone, dans la cause, dans tout ça, ils puissent le faire en connaissance de cause et avec des nouveaux apports pédagogiques que d'autres n'ont pas eu. Sens ou un master ou une école qui est dédiée à ces enjeux, t'as pas forcément beaucoup de contenu. Quand je demande à des étudiants où est-ce qu'ils se placent sur la jauge de la sensibilité, ils disent sensible, informé, mais pas non plus engagé, majoritairement. Et où est-ce qu'ils s'informent ? Majoritairement sur les réseaux et dans la famille. Mais ça demande... Le problème, c'est après, quel est le poids de cette information ? Quelle est la véracité des propos ? Comment on identifie ou pas un média qui a une enquête de fond et comment ça peut être le contraire ? On leur demande... On va pas forcément aller leur dire quoi lire. Par contre, si on arrive à les éduquer sur l'esprit critique, l'esprit de la controverse, comment argumenter, comment se renseigner, etc., là, on a fait notre taf. Et en fait, il y a un des enjeux qui est très présent en ce moment dans notre travail, moi à titre personnel, c'est comment on va intégrer ces connaissances dans les parcours de tout le monde. Que demain tu fasses de l'économie, du droit, de l'histoire, du sport, de l'histoire de l'art, du management, comment tu peux quand même suivre ton parcours en ayant des apports de connaissances sur les enjeux de transition écologique.
Lundi, tout au long de la journée, Maxime mène l'atelier Hackathon avant la diffusion du documentaire La Panthère des Neiges.
Je m'appelle Maxime, j'ai 26 ans et je suis activiste pour la justice sociale et climatique. J'ai fait mes études ici à Toulouse et là aujourd'hui je reviens pour animer le hackathon de SIDS. Bah déjà on a travaillé à faire en sorte de former le groupe et de faire en sorte que le groupe s'entende bien aujourd'hui, notamment dans un format de comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte que tout le monde se sente à l'aise de participer. Et ça c'est vraiment un élément clé, c'est-à-dire qu'on dit oui on va faire l'intelligence collective, tout le monde va venir participer, c'est génial, sauf qu'en fait si tu crées pas les conditions pour que les gens se sentent à l'aise de participer, en fait ça fonctionne pas et du coup tu fais ce qu'on appelle du participation washing quoi. C'est comme du greenwashing mais sur la participation, c'est-à-dire que tu fais semblant que tu vas faire participer les gens, puis après tu dis oui j'ai organisé ça, c'était super, on a fait venir un animateur, c'était super, et les gens ont donné leur avis, et puis après soit tu les prends pas en compte, soit en fait l'avis qui a été donné était beaucoup plus influencé par une ou deux personnes que par réellement le groupe quoi. Je suis activiste depuis genre 5-6 ans déjà, donc ça fait mon engagement il est assez éloigné maintenant, ça fait longtemps que je m'engage et là c'était parce que moi dans mes études notamment j'ai beaucoup travaillé sur l'évolution des plaquettes pédagogiques des cours, enfin de faire en sorte qu'on ait des cours à la hauteur des enjeux etc. Et il se trouve que ça avait du mal à aboutir notamment parce qu'en fait les plaquettes pédagogiques elles évoluent pas tout le temps, c'est fixé tous les 5 ans etc. Et donc là maintenant il y a une opportunité qui s'ouvre avec des propositions du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche de faire évoluer les plaquettes pédagogiques. Et donc je trouve ça hyper intéressant que les étudiants et étudiantes soient associés à ces réflexions avec des groupes de travail de professeurs qui vont recevoir les propositions des étudiants et étudiantes. Donc moi ça me marque aussi dans mon parcours. J'étais trop content de savoir qu'on allait pouvoir enfin implémenter des trucs et que ça puisse commencer à faire en sorte qu'un maximum d'étudiants et d'étudiantes soient formés aux enjeux écologiques et sociaux quoi. Moi par ailleurs je suis facilitateur en intelligence collective et donc ces dimensions de comment est-ce qu'on arrive à faire ensemble et donner de la parole aux étudiants, ça me semble hyper important et que chacun se sente à l'aise de participer. C'est pas forcément évident, déjà il y a aussi un biais à l'entrée de qui sont les gens qui s'inscrivent à ce genre d'événement, donc c'est pas tous les étudiants, c'est pas toutes les étudiantes, c'est déjà il y a un biais et après une fois que les gens sont sur place il faut faire fonctionner l'intelligence collective, donc c'est pas facile.
La force du hackathon, c'est qu'on passe toute la journée avec le même groupe et qu'ils ont le temps d'échanger entre eux sur des temps informels et en même temps, à la fin, de produire un vrai travail sur mon cours idéal, qu'est-ce que j'aimerais voir au programme, quel format j'aimerais qu'il ait, etc. Donc ça permet d'avoir une vraie construction de fond, où à la fin, il va y avoir une vraie restitution devant le maire de quartier, devant des représentants institutionnels, sur lesquels ils auraient bossé depuis le matin. Ça, c'est le premier temps. Et ce soir, on a l'habitude de faire des projections, mais plutôt de documentaires qui soient sérieux ou de choses qui peuvent être un peu inquiétantes, ou alors à l'inverse des projections qui n'ont aucun apport pédagogique, qui soient un film de divertissement. Bon, là on a choisi de projeter La Panthère des Neiges, qui est un documentaire mais très imagé sur cette quête d'essayer de photographier La Panthère des Neiges, qui est une espèce de plus en plus rare, et du coup c'est un film qui est très contemplatif, qui est très beau, avec une BO de Nick Cave qui a été créée pour l'occasion. Donc c'était un choix vraiment profond d'amener ce rapport au sensible, en se disant que plus on est touché par le monde qui nous entoure, plus on s'engage à le défendre. Tu vois, un passionné de ski, il va avoir envie qu'il y ait de la montagne, donc qu'il y ait de la neige. Donc il va être inquiet de voir ses glaciers fondre. Bon bah voilà, ça c'est une entrée. Et là, ce soir, c'est vraiment ça, le titre du débat, c'est l'art de la contemplation, moteur à l'engagement. Et du coup, il y a des gens qui vont venir juste regarder un film qu'ils auraient loupé, qui a quand même eu le César du meilleur documentaire, donc qui a quand même une certaine renommée, et en même temps qui va se suivre par un débat sur comment finalement en observant le monde qui nous entoure on peut devenir militant tu vois, sans avoir à taper du pied. Donc, demain, ça va être plein de petites choses. Ça va être une fresque d'un côté, un atelier sur l'éco-anxiété de l'autre, un speed searching, donc le fait de pouvoir rencontrer des doctorants en 10 minutes comme ça sur des sujets de recherche. L'après-midi, il y a plein d'assos qui vont venir pour présenter ce qu'elles font et en même temps faire connaissance entre elles et avec le grand public. On a mélangé des assos étudiantes et des assos de la société civile. Donc on a la Sol Violette, on a le muséum, on a ma bibliothèque d'objets et en même temps une association de l'ENSAT, une association de l'Université de Toulouse, etc. Donc là, ça va être vraiment la richesse du multiple.
La sensibilité à la cause environnementale, c'est une question d'éducation ?
Quand tu as pris des habitudes, c'est vrai pour tout et n'importe quoi, hein. Une fois que tu as pris des habitudes, c'est dur d'en changer. C'est-à-dire que moi, je lutte à devenir végétarienne parce que j'adore ça, la viande, tu vois. Et si je le fais, c'est pour un engagement écologique, c'est un engagement de diminution de mon impact carbone et du bien-être animal. Mais c'est pas simple. Si j'étais née et j'avais grandi sans avoir jamais mangé un morceau de viande, ou alors très 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 peu, à titre, tu vois, une fois par an, et ben ça me manquerait pas. Et ben tu peux appliquer ça à tout. Et effectivement, si depuis que t'es petit, t'apprends qu'en ce moment, il y a une montée de l'élévation du niveau de la mer, il y a une pollution qui est grandissante, il y a du réchauffement qui... Enfin, on l'apprend, le réchauffement climatique, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin, on prend l'enjeu climatique dans tous ses aspects. On appelle ça la globalité ou la systémie de l'enjeu climatique. C'est-à-dire qu'enfin, on parle que l'urgence climatique, et en plus climat, ça veut dire biodiversité aussi, parce que quand on parle climat, on parle souvent réchauffement climatique, mais on parle des limites planétaires, on parle d'écologie dans la biodiversité, on parle des inégalités, on parle des futurs réfugiés climatiques, on parle de tout ça en fait quand on parle de justice sociale et de transition écologique. Et c'est vrai que si on avait tous ces aspects-là depuis la primaire, eh ben aujourd'hui, se poserait même pas la question de comment changer de comportement. Parce qu'en fait, on l'aurait déjà intégré. Le problème aujourd'hui, c'est que on a appris à être globalement individualiste. On a appris à se former pour un métier précis. C'est-à-dire que quand tu veux te former en pharmacien, et ben tu vas faire des études de pharmacien sans avoir jamais un cours de philo ou un cours de sociologie ou un cours d'histoire ou un cours de, tu vois. Et en fait, plus t'avances dans l'enseignement supérieur, plus tu te spécialises sur un domaine et t'en oublies un peu la globalité. Et c'est pour ça que se redéveloppent des outils d'intelligence collective et de transdisciplinarité, d'interdisciplinarité. C'est ce qu'on essaye de faire dans le projet SIDS. Il y a beaucoup d'enseignants qui sont en train de se regrouper avec des expertises différentes pour réussir à proposer des formations qui traitent de tous les enjeux. Aujourd'hui, tu ne peux pas parler réchauffement climatique sans parler droit, sans parler économie, sans parler histoire, sans parler, tu vois, vivant, etc. Donc, enfin, je pense qu'il y a une prise en compte de tous ces enjeux-là, mais c'est pas encore massifié. C'est la première fois qu'il y a un festival sur ces enjeux qui dure autant longtemps, donc 2 jours, qui est ouvert à toutes les universités et écoles du site toulousain et ex-Midipi, donc c'est 10 villes universitaires d'équilibre. Bon, elles vont pas forcément toutes se déplacer, mais en fait, c'est vraiment ouvert à tous et c'est aussi ouvert au grand public. Donc là, on peut voir à la fois des personnes qui pourraient passer et être curieuses que des étudiants. Là, ce qui est intéressant à constater, en tout cas depuis ce matin, c'est que déjà, on a une diversité des cursus. C'est-à-dire qu'on a des jeunes de la Toulouse School of Economics, on a des jeunes de l'INSA, on a des jeunes de Paul Sabatier, on a des jeunes de Sciences Po. Donc on a déjà une diversité de domaines. Donc ça veut dire des personnes qui d'habitude ne se rencontrent pas, qui là vont pouvoir se rencontrer. L'autre particularité depuis ce matin, c'est qu'on a des enseignants-chercheurs et des ingénieurs pédagogiques qui sont venus pour co-travailler et co-construire avec les jeunes le parcours de formation. Et donc, pour la première fois, ils se sont retrouvés autour d'une table et les jeunes leur ont posé des questions en disant « Mais en fait, on se rend même pas compte de ce que vous faites vraiment. » Et les enseignants-chercheurs leur ont dit « Parce que vous savez pas, c'est que vous nous voyez en bas d'un amphi, mais à côté de ça, on a des travaux de recherche, on a des travaux administratifs, et en fait, notre vie, c'est ça, ça, ça. » Donc déjà, c'est de casser la hiérarchie, de développer le dialogue, de se rencontrer sur des domaines très variés, ça, on le constate.
Est-ce que tu penses que il faut encourager ce type d'organisation, ce type de projet? Est-ce que tu trouves qu'il y en a assez ou justement c'est encore très faible? S'il y a cet intérêt, autant le développer et pourquoi pas l'encourager?
Alors, il se passe plein de choses. Je pense que la problématique, c'est que là, le format qu'on est en train de tester, qui mélange du sérieux et du moins sérieux, ça, ça manque. C'est-à-dire qu'à l'échelle de Toulouse, je pense que quasiment 2 fois par semaine, tu peux avoir une conférence ou un atelier ou une proposition culturelle sur les enjeux de transition. Ça, ça existe. Au sein des écoles aussi, ça existe. Par contre, des endroits qui soient neutres, c'est-à-dire que ce ne soit pas sur un campus, que ce ne soit pas institutionnel, que tu puisses venir déambuler ou à la fois travailler sur ces questions, ça manque. Même là, encore sur ce festival, on reste dans un lieu de l'Université de Toulouse, qui est certes très convivial, il y a des tables de partout, c'est des étudiants de l'ISDAT qui ont meublé, il y a des expos, tu peux venir te caler pendant 1 heure ou rester toute la journée. Bon, c'est déjà plus convivial. Maintenant, ça reste quand même un lieu implémenté, tu vois, universitaire. Mais je pense qu'à l'avenir, si on avait trouvé un lieu presque comme un vrai festival, c'est-à-dire un moment un peu artistique ou un lieu qui soit culturel, qui soit identifié par les étudiants. Ils aient déjà l'habitude d'aller et qu'on amène la transition écologique là. Là, je pense que ce serait une vraie victoire. Là, on avait l'occasion de cette ouverture de ce nouveau lieu qui était quand même un grand pas dans l'Université de Toulouse et que moi, perso, je m'attendais pas à un lieu aussi convivial et où tous les gens ont l'impression de se sentir quand même globalement très très bien. Il y a des espaces extérieurs, etc. Demain, on va encore plus en profiter parce qu'il va y avoir plein d'associations qui vont venir. Mais je pense que ce qui manque aujourd'hui, c'est des propositions variées en même temps et dans un même endroit qui ne soient pas institutionnelles.
Il y a beaucoup de jeunes aussi qui ont été habitués à des sensibilisations sur le climat, mais de manière, par exemple, certaines fois très sérieuse à l'école. Donc à l'école, on décroche, on n'est pas là.
Oui, c'est prouver que t'es engagé quand tu aimes ce que tu fais. C'est-à-dire que les éco-anxieux qui n'arrivent pas à en sortir, si tu veux, au bout d'un moment, ton éco-anxiété ou en tout cas ta peur, parce qu'on parle de ça, là on parlait du format sérieux, mais on parle aussi du format inquiétant. C'est normal d'être inquiet. Au vu de l'urgence climatique, l'idée de la convivialité, c'est pas de lisser et de dire que rien n'est grave. Non. Par contre, c'est de faire ensemble. Et quand tu te regroupes, déjà, tu perds en anxiété, quand t'es anxieux, et tu perds en ennui parce que t'es avec du monde. Donc déjà, ces deux freins-là, tu les enlèves. Si en plus, t'arrives à mixer les formats, mixer les publics, bah là, a priori, tu peux engager quelqu'un sur le long terme, ne serait-ce qu'en lui apportant des propositions qui soient variées et qui lui plaisent, ou que si ça lui plaît, ils sont en capacité de dire bah ça me plaît pas, j'ai pas envie de faire ça. Ah bah c'est cool, il y a un autre atelier ou il y a un autre, une autre, il y a une expo ou alors il y a une projection ou alors il y a quelque chose. Je pense que c'est ça, c'est la force de la proposition, c'est qu'elle soit variée et que ça permette à des étudiants de se sensibiliser et de se former à ces enjeux-là entre pairs, c'est-à-dire avec d'autres étudiants, sans qu'il y ait ce rapport hiérarchique de l'enseignant qui t'apprend des choses et qu'après tu dois restituer pendant un contrôle. Il y a le fait que ce soit comme ça et aussi le fait que on n'est pas en train de leur dire il faut faire ci, il faut savoir ça. Non, voilà, on vous donne, on vous met ça à disposition. Qu'est-ce que vous, vous voulez en faire? Et je pense que c'est ça la force de ce hackathon ce matin.
On est tous touchés par cette cause, mais alors Margot, quels sont les moyens les plus efficaces pour militer ?
Moi, je suis profondément convaincue qu'un militant en colère, c'est un militant peu endurant. Malheureusement pour nous, quand on est trop en colère, on ne tient pas. On ne tient pas, on s'essouffle. Donc, je pense que je ne connais pas une personne consciente des enjeux qui n'est pas parfois en colère, ça c'est évident, mais je pense qu'on a tous trouvé une voie ou en tout cas une façon de s'engager qui nous permettait de durer sur le long terme parce qu'on trouve du sens dans ce qu'on fait. Donc si on part de ce postulat-là, les conseils que tu peux apporter ou que je peux apporter à des personnes qui aimeraient, qui se sentiraient concernées par ces enjeux mais qui ne trouveraient pas leur voie, c'est de partir de ce qu'ils aiment. C'est-à-dire que l'écologie, ce n'est pas un concept, ce n'est pas, un domaine en soi. C'est quelque chose qui doit infuser partout. C'est-à-dire que tu peux rencontrer des personnes qui font de la communication, qui finalement réussissent à développer de la communication qui soit légère en point numérique ou qui porte des messages forts, qui ne soit pas dans le greenwashing, parce que la communication, ça peut autant être militant que du greenwashing. J'ai des personnes qui sont passionnées d'art ou de couture ou de n'importe quoi, qui finalement ont réussi à trouver une façon de faire infuser l'engagement militant dans le domaine qu'elles font. Donc je pense que déjà la première chose, c'est de partir de ce que t'aimes faire et de voir en quoi ce que t'aimes faire peut servir un intérêt commun. La deuxième chose, c'est de s'entourer, c'est de parler. C'est-à-dire que les personnes qui tiennent le moins longtemps, on a parlé des personnes en colère, c'est aussi des personnes isolées. Moi, la seule fois de ma vie où j'ai vraiment, je me suis éteinte et j'ai fait une semaine d'arrêt pour éco-anxiété, c'est parce que je tourbillonnais dans ma propre tête, tu vois, de lire des choses, de m'inquiéter, de lire des choses, de me réinquiéter, de me dire mais finalement à quoi je sers, finalement pourquoi on est là, tout ça, ça sert à rien. Et qu'est-ce qui m'a fait sortir de cette torpeur ? C'est de partager cette angoisse avec d'autres qui la partagent ou pas, mais en tout cas qui sont en capacité de t'écouter parce qu'ils ont vécu soit des choses similaires, soit des choses complémentaires et qui peuvent t'apporter des réponses. Donc je pense que quand on n'a pas forcément d'idées, aller là où il y en a. Je pense que la meilleure façon de le faire, c'est de s'écouter, c'est de parler, donc il y a ce double discours, et de partir de ce qu'on aime faire et de ce qu'on sait faire pour aller jusqu'au chemin de se poser la question, ce que j'aime faire, est-ce qu'il est impactant négativement pour la planète ? À quoi ça va ressembler dans 10 ans si ça manque de ressources ? Si t'es passionné de Formule 1, je suis désolée de te le dire, ça va être compliqué de continuer. Ok, bon bah comment je fais ? Est-ce que je milite pour une Formule 1 avec un nouveau gaz qui ferait démarrer ma voiture ? Est-ce que finalement j'essaye de trouver une autre passion ? Enfin voilà, c'est des questions qui se posent. Mais en tout cas, se poser la question entre pilotes, c'est déjà un chemin. Plutôt que de nier en disant « c'est ma passion, c'est ce que j'aime, tant pis ». Voilà, c'est vraiment de se questionner, je pense.
Quand on néglige sa jeunesse, c'est dans le fond qu'on tombe en dépression et qu'on est incapable de préparer son avenir.
Ça ne veut plus rien dire, lycéens. C'est des merdeux, des cons.
Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.